enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Les différents points de la prédication qui s'intitule ce matin « Une bénédiction appelée la dîme ». Peut-être quelqu'un va dire « Aïe, 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 je ne suis pas tombé le bonjour ». Écoutez, ça fait peut-être 3 ans que je n'ai pas prêché sur la dîme. On va en parler ce matin et en réalisant que c'est une vraie bénédiction. Vous dire au niveau de l'histoire de la dîme, tout a commencé la première fois qu'il est référence à cette dîme, qui consiste, la dîme, ça veut dire donc le dixième, de donner le dixième de ses revenus. Eh bien, cette vieille histoire commence avec Abraham, dans Genèse, chapitre 14, verset 20. Il est dit, « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Souvenez-vous de cette histoire. Abraham a son neveu Lot qui a été capturé, pris en otage par Kedor Laomer, roi. Et voilà que Abraham décide de mener un commando de récupération, un peu comme les Canadiens savent faire, pour aller chercher les otages, pour aller chercher ceux qui sont, pour aller chercher son neveu Lot, qui a été là, pris entre les mains du roi Kedor Laomer. Abraham y va avec une poignée d'hommes, et Kedor Laomer est entouré de 5 rois, ils sont nombreux. Et voilà qu'il y a toute une petite tribu d'Abraham contre toute une armée, même plusieurs armées. Mais Abraham... la différence avec Abraham, c'est que Abraham a Dieu de son côté. Parce qu'il y en a qui savent dans ce lieu que quand Dieu est avec nous, ça fait une différence. Même si on est moins nombreux, même si on est moins fort, même si on est plus petit, même si on est moins puissant, même si on est jeune et qu'on n'est pas bien grand, puis qu'en face de nous, il y a un géant qui s'appelle Goliath, quand Dieu est avec nous, ça fait une différence. Même quand on est une petite armée, même quand on est un petit troupeau, et que Dieu est avec nous, ça fait une différence. Même quand on n'est pas nombreux dans une ville, même quand on n'est que 200 chrétiens le dimanche matin, et qu'il y a une ville de 70... Combien ? Les chiffres officiels à Drummondville ? 60 000 habitants ? On va dire, on est 70, qui dit mieux ? Franchement, si on regarde aux chiffres, on n'est pas nombreux. Et même en rajoutant les autres églises, on bénit Dieu pour l'église de la Vie Comblée, l'église baptiste et d'autres églises encore, c'est une petite minorité par rapport à cette ville. Mais avec Dieu, ça fait une différence. Abraham, Dieu est avec lui. Abraham, c'est l'image, c'est pour reprendre une expression du Nouveau Testament, c'est le père des croyants. C'est lui notre modèle en ce qui concerne la foi. Et parce que Dieu est avec lui, il y a une bénédiction particulière sur la vie d'Abraham. Et voilà qu'Abraham, avec Dieu, eh bien, va remporter la victoire sur Kedor Laomer et va venir là donc délivrer Lot. Et Lot habitait dans quelle ville ? Sodome et Gomorre. Du coup, en délivrant Lot, il délivre aussi le roi de Sodome. Parce que c'était toute la ville de Sodome qui avait été envahie. Et voilà que le roi de Sodome essaye de faire un marché avec Abraham, en disant, Abraham, tu nous as délivrés. Abraham, tu es venu à notre secours. On va faire un marché. Prends pour toi les richesses et laisse-moi les hommes. Comprenez que Sodome n'a pas une bonne réputation. Et le roi de Sodome, c'est pas l'image du bon chrétien. Vous me suivez? Le roi de Sodome a là des vies dans l'iniquité, c'est l'image du péché, c'est la ville de la perdition. Et voilà que ce roi propose de faire un marché avec Abraham, en disant, Abraham, je vais t'enrichir. Abraham, prends les richesses. Abraham, voilà de l'or, voilà de l'argent, voilà des trésors. Prends toutes ces choses pour toi, Abraham, et laisse-moi les âmes, et laisse-moi les hommes. Comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, le prince de ce monde essaye de faire le même marché avec les chrétiens. Et de dire aux chrétiens et de dire aux églises, prenez les richesses, prenez la bénédiction matérielle, prenez des bons salaires, prenez de l'argent, prenez des trésors, des diamants, des bijoux, de l'or, prenez toutes ces choses, et laissez les âmes tranquilles, laissez-les moi, laissez les âmes aller en enfer, laissez les âmes mourir dans toutes sortes de péchés, de vices, de perdition. Le roi de Sodome essaye de faire ce marché avec Abraham, et de la même manière aujourd'hui, le prince de ce monde essaye de faire ce marché avec l'Église. Dites-moi, est-ce que le diable est déjà venu frapper à votre porte en disant, écoute, le plus important, c'est que tu gagnes plus d'argent, qu'importe si tu as moins de temps pour parler de Dieu, qu'importe si tu n'as pas le temps d'évangéliser. Hé, ne parle surtout pas de Dieu à la chope, ne parle surtout pas de Dieu au travail, parce que tu risques de perdre ton emploi et donc de perdre de l'argent. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'écho? Est-ce que le diable est venu vous parler de cette manière-là et vous amener à croire et à faire ce marché? Je te donne les richesses, mais laisse-moi les âmes. Abraham, il dit, ça marche pas cette affaire. Je ne traiterai pas avec toi et je prendrai pas même un cordon de souliers, de peur qu'on ne dise, c'est le roi de Sodome qui a enrichi Abraham. Comprenez que Abraham n'est pas pauvre, que Abraham a une richesse, mais que la richesse qu'Abraham a, elle vient de Dieu. La richesse d'Abraham, c'est essentiellement son troupeau. Et c'est Dieu qui a fait prospérer son troupeau. Il a là beaucoup de bergers, il y a un troupeau, un cheptel qui est énorme. Et Abraham est devenu riche et puissant parce que Dieu l'a béni. Non pas parce que le roi de Sodome l'a enrichi. Mais il sait, Abraham, que c'est Dieu qui l'a béni. Il sait, Abraham, que s'il est vainqueur sur les rois, c'est parce que Dieu est avec lui. Et quand le roi de Salem, Melchisédek, sort de la ville pour venir le bénir et dire « Béni sois-tu, Abraham, au nom du Dieu très haut », Abraham reçoit cette bénédiction. Et là, pour la toute première fois dans la Bible, il est dit qu'Abraham donna la dîme de tout au sacrificateur Melchisédek. D'un côté, il y a le roi de Sodome qui veut lui donner des richesses. Mais Abraham refuse ses richesses et lui, son choix et sa décision, c'est de donner la dîme de tout ce qu'il a au sacrificateur Melchisédek, comprenez, pour Dieu. Un peu plus tard, on trouve Jacob qui lui aussi décide de donner la dîme à Dieu. Genèse 28, verset 22. Il donne. Et on retrouve cette expression, il donne. L'expression donner montre qu'il le faisait. Et puis dans votre bulletin, il y a un vide. Et là, vous pouvez prendre un stylo et marquer. Et si quelqu'un n'a pas de stylo, qu'il lève la main. Et les préposés aux offrandes vont vous en prêter un. Et là, on peut noter, l'expression « donner » montre qu'ils le faisaient de leur plein gré. Ils leur faisaient de leur plein gré. Gré, G-R-E. Ils leur faisaient de leur plein gré. Ils leur faisaient d'une manière volontaire. Quand on donne, c'est volontaire. Non? Sinon, c'est pas donner. Quand on dit à quelqu'un « je te donne », c'est parce qu'on le fait d'une manière volontaire. On le fait de notre plein gré, on le fait d'une manière volontaire. Mais plus tard, avec la loi de Moïse, il y a eu une loi et des obligations légales. La dîme est devenue la ressource de revenus pour ceux qui travaillaient au temple, les Lévites, pour ceux qui faisaient le service de Dieu, dans le tabernacle et dans le temple par la suite. Et donc, la dîme servait à la nourriture et des lévites, des sacrificateurs, et aussi à entretenir le temple. Ça, c'est devenu une obligation légale à partir de la loi de Moïse, Lévitique, chapitre 27, verset 30. Quand on regarde le verbe « donner », on le retrouve dans Jean 3, 16. Un verset qu'on connaît par cœur, enfin pour plusieurs, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Et si Dieu donne, c'est d'une manière volontaire, c'est d'une manière consciente, c'est de plein gré. Personne n'a obligé Dieu à donner. Mais c'est par amour que Dieu donne. Dieu a tant aimé le monde. Et on peut noter sur cette petite phrase de trois mots, « Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. » Je ne sais pas si on peut enlever le verbe « donner » du verbe « aimer ». Aimer, c'est donner de son temps, c'est donner de sa personne, c'est donner de ce que l'on est. À tel point que quand on aime quelqu'un, on se donne à, non ? L'épouse se donne à son épouse. Jusqu'au point que l'apôtre Paul va dire qu'il ne lui appartient plus. Il appartient à son épouse. Non ? C'est pas comme ça que ça marche ? Aimer, c'est donner. Quand on aime, on donne. On donne notre amour, on donne notre affection, on donne de notre temps, on donne de nos ressources. Et de la même manière, aimer Dieu, c'est donner. La dîme commence avec Abraham, avec Jacob. On voit que plus tard, c'est devenu une obligation légale. Mais ce qui est bien triste, c'est que dans le Nouveau Testament, au temps de Jésus, on n'utilise plus le verbe « donner », on utilise le verbe « payer ». Et vous voyez que ça fait une différence, « payer ». Quand on paye, ce n'est pas qu'on donne, non ? Est-ce que vous donnez quelque chose au dépanneur ou est-ce que vous payez pour avoir de l'essence ? Non, on donne parce qu'on l'aime bien, puis en contrepartie, il nous donne un peu d'essence. Non, on paye et on est bien obligé de payer. Payer, c'est une obligation, puis payer montre que, comme on paye ses impôts, est-ce que vous donnez de l'argent au gouvernement ou est-ce que vous payez vos impôts ? Parce que vous dites, moi j'aime tellement le gouvernement qu'il faut que je les aide, je vais leur donner un peu d'argent. Vous dites, ah, il faut que je paye. Vous voyez que ça fait une différence. Mais il ne faudrait pas que dans l'Église, et il ne faudrait pas qu'avec les choses de Dieu, on dise, oui, autrefois, au temps d'Abraham et de Jacob, on disait, on donnait à l'Éternel. Mais maintenant, on arrive, dès qu'on utilise le mot dîme, alors que ça fait peur et sursauter tout le monde, il faut payer. Il ne s'agit pas de payer. Il s'agit de donner. Est-ce que ça fait une différence, là ? Vous allez dire, c'est pareil, l'argent sort quand même. Non, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Donner, c'est de bon cœur. C'est de plein gré. Il n'y a aucune loi, aucune obligation, aucun impôt. Il n'y a pas d'impôt dans l'Église qui va venir obliger les gens à payer. Pour avoir une place au culte de l'Église de Pentecôte de Drummondville, il faut payer sa chaise. Il faut réserver sa place. C'est pas comme ça, ça. Je ne l'avais pas payé en rentrant.
Non,
bon, heureusement. Il n'y a pas un trafic illégal d'entrée. On ne paye pas pour rentrer. C'est gratuit. L'Évangile, c'est gratuit. Et nous voulons accueillir quiconque dans ce lieu gratuitement. Même si ça coûte pour avoir un peu de chauffage, pour avoir un peu de lumière, pour toutes ces choses. Mais c'est gratuit. Et l'Évangile, c'est gratuit. Au temps de Jésus, il fallait payer. Et on parlait de l'expression « payer la dîme » plutôt que de donner. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus d'obligation légale. Parce que la loi de Moïse a été accomplie. Et dans le Nouveau Testament, il n'est plus question d'obligation, tout comme ça pouvait l'être depuis que la loi de Moïse avait été instituée. Mais dans le Nouveau Testament, il est plus question d'un devoir moral que d'une obligation légale. Je m'explique. C'est encore sur une... On revient en fait à l'origine. Comme quand Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et donc, le Nouveau Testament nous ramène au commencement, en disant, ce n'est plus payer, c'est donner. Et c'est ce qu'on retrouve Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2, vous avez ce verset où il est dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, hein, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met ce qu'il pourra selon sa prospérité. Selon sa prospérité, d'une manière proportionnelle à sa prospérité. Si quelqu'un est prospère, il pourra donner plus. Si quelqu'un est moins prospère, il donnera moins. Mais que chacun mette à part ce qu'il pourra. Dieu ne nous demande jamais plus que ce qu'on est capable de donner. Il ne nous demande jamais, il n'y a pas d'épreuve qui soit au-delà de nos forces. Il n'y a pas de défi que Dieu va mettre sur notre chemin qui ne soit irréalisable. Dieu nous demande toujours quelque chose de possible. La dîme est donc passée du statut d'obligation légale à celui de devoir moral sur une base volontaire. Et on ne peut pas dire aujourd'hui, et je pense que comme, et là j'ai repris les paroles d'un pasteur français, Jean-Claude Guillaume, je préférais mettre ses paroles à lui que les miens. Lui nous dit clairement, on ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas faire aujourd'hui une obligation légale de la dîme. Et je ne peux pas venir ce matin vous dire, il faut, c'est obligatoire, donner la dîme, parce que c'est écrit comme ça dans le Nouveau Testament. Non, ça, ce serait aller trop loin. Il n'est pas écrit qu'il faut et que c'est une obligation, parce que ça, ça voudrait dire qu'il faut payer. Et on revient au système des impôts, des taxes et des obligations. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on considère qu'on est imposé à l'Église. On nous impose de donner la dîme. On prend une taxe, on nous prend notre argent. Non, il s'agit de donner. Il s'agit d'offrir. Il s'agit de quelque chose de volontaire. Mais il y a une bénédiction dans ce geste, dans cette offrande volontaire que l'on donne à Dieu. De la même manière que Abraham a donné volontairement à Melchisédek, que Melchisédek n'a rien demandé, qu'il n'a rien exigé, Abraham a donné d'une manière volontaire, il y a une bénédiction. Et laissez-moi vous dire ce matin qu'il y a une réelle bénédiction lorsque l'on donne à Dieu, lorsqu'on lui montre notre amour, parce que donner, c'est montrer notre amour, lorsque on exerce notre foi dans le soutien matériel, et que l'on dit, Seigneur, je veux être fidèle dans les petites comme dans les grandes choses. Et je sais que certains diront, mais vous savez, ma situation financière ne me permet pas. Ma situation financière ne me permet pas. Je dis que je ne connais pas votre situation financière, alors je ne peux que vous le croire. Mais laissez-moi vous dire que des gens se considèrent pauvres alors qu'ils sont riches. Que si on avait l'opportunité de vous emmener tous au Sénégal ou en Haïti ou dans d'autres pays, on réaliserait qu'on est milliardaire. Qu'on a énormément. Il y a certains pays, je sais que les jeunes, ils se plaignent toujours de ne pas avoir assez d'affaires. Non, ils ne sont pas comme ça, vos jeunes, là, ou les jeunes. Leur garde-robe est toujours trop petite. Mais il y a des pays où ils ont un vêtement pour l'année. Et on dit, oui, mais écoute, on n'en est pas rendu là. Nous, on est au Canada, là. C'est vrai qu'on est au Canada. Mais juste pour vous faire remarquer que la richesse, la pauvreté, c'est relatif. Que d'une manière générale, le Canada fait partie des pays riches. Et que même quelqu'un qui est sur le bien-être social au Canada est riche par rapport à d'autres personnes dans bien des pays pauvres. Tout ça pour vous dire que c'est vrai aussi qu'on peut être dans des situations financières difficiles. Et il y a dans votre bulletin un petit mot de Bob Gass avec un témoignage. Quelqu'un qui vivait une situation financière difficile, qui était dans le rouge de 40 000 dollars, et qui me dit, mais comment, en étant dans le rouge comme ça, je peux donner à Dieu? J'en ai même pas assez pour moi. Voyez-vous, la dîme, c'est aussi un acte de fidélité, d'engagement, et de dire, Seigneur, je veux être fidèle dans ce que je veux te donner. Et laissez-moi vous dire que quand on est fidèle à Dieu, Dieu, lui, est fidèle. D'ailleurs, évidemment, c'est un passage qu'on connaît bien et qu'on cite souvent quand il est question de dîme. Il est dit que Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve. Il me semblait que j'avais cité le verset, mais je ne le retrouve pas. Mais c'est dans Malachie, évidemment. Malachie, c'est chapitre 3, donc le dernier livre de l'Ancien Testament. Il est dit au verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé ?» Voyez-vous, Dieu est en train de parlementer avec son peuple et de dire, « Vous êtes en train de me tromper. » Et le peuple de l'Éternel répond, « Comment ça, Seigneur ? En quoi est-ce qu'on t'a trompé ? On est des gens bien, on est des bons chrétiens, on est fidèles. Comment peux-tu dire qu'on t'a trompé ?» Et voilà comment Dieu répond au travers du prophète Malachie à son peuple. Vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Dites-moi, si aujourd'hui Dieu venait avec nous et qu'il disait, tu m'as trompé, tu n'as pas été fidèle, égal, tu m'as trompé, non? Quand un homme est infidèle, c'est qu'il a trompé sa femme, non? Ce qui concerne les choses de Dieu, c'est la même image. Dieu utilise beaucoup l'image de la fidélité, du couple, de l'adultère, pour parler des relations que nous avons avec lui. Et Dieu dit, vous m'avez trompé, parce que vous n'avez pas été fidèle dans vos dîmes et dans vos offrandes. Mais Dieu n'est pas là sur le ton de la reproche, puisqu'au contraire, il amène une parole d'encouragement au verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Laissez-moi vous dire qu'il y a une énorme bénédiction pour ceux qui sont fidèles dans les moindres détails et pour ceux qui sont fidèles aussi dans les dîmes et les offrandes. La dîme, c'est une réelle bénédiction et c'est ce qu'on peut noter dans cette dernière chose. La dîme est une bénédiction. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un impôt, c'est une bénédiction. Vous arrivez à dire Alléluia à ça ? Quand même là, c'est dur de dire Amen à de telles paroles. Est-ce que vous avez quand même là, pas trop d'argent, pas trop. Lisez la Bible et notez, regardez bien le nombre de fois où Dieu parle d'argent, où Dieu parle de trésor, de richesses matérielles. Et où il y a des recommandations, des paroles, des conseils, Dieu lui en parle. Et l'apôtre Paul nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et c'est nécessaire d'en parler, parce que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et que si on y réfléchit bien, il y a bien des problèmes dans le monde qui sont là juste à cause de l'amour de l'argent. Il y a des guerres qui ont lieu à cause de l'amour de l'argent. Il y a des familles qui sont divisées à cause d'un héritage. Non, vous ne connaissez pas ce genre de famille ? J'en connais trop. Des familles qui s'entendent bien, mais un jour, il y a un deuil et il y a un héritage. Et les frères et sœurs se chicanent pour dire, c'est moi qui dois avoir la maison. Non, moi je prends le char. T'en as plus que moi, moi j'en ai moins. Et la famille se dispute à cause de biens matériels. L'amour de l'argent, ça vient mettre des problèmes partout. Et laissez-moi vous dire que si vous ne voulez pas avoir de problème, n'aimez pas l'argent. C'est-à-dire, ouf. N'aimez pas, vous allez dire, c'est nécessaire. Ben oui, c'est nécessaire. Évidemment, si vous arrivez au super-C en disant, on s'aime, on n'a pas besoin d'argent entre nous. Ils vont vous dire, ça ne marche pas comme ça, monsieur. C'est sûr que c'est nécessaire. Mais comprenez que c'est l'attachement, le cœur. Le roi de Sodome veut amener Abraham à dire, je te donne des richesses. Voilà tout ce que je te donne. Et Abraham dit, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Parce que le prix des âmes et des hommes a plus de valeur pour moi. Vous savez, Dieu regarde. Il y a dans l'Ancien Testament des récits et même des listes. On a toutes sortes de listes. Il y a des généalogies, il y a des recensements. Et il y a même la liste de ceux qui ont donné et du montant qu'ils ont donné pour la construction du temple. Il me semble qu'en allant à l'hôpital Sainte-Croix, il y a un moment, une grande plaque où il y a marqué le nom de tous les donateurs, ceux qui ont donné des gros montants, et on veut les honorer, les récompenser en mettant leur nom ici. Imaginez qu'on fasse ça à l'église de Pentecôte de Drummondville. On va faire une liste et on va mettre la liste de tous ceux qui donnent. Ça va? Moi, je n'ai pas trop à faim. On met la liste de tous ceux qui donnent et on dit voilà les noms de tous ceux qui ont donné et le montant. Ah? Oh! Oh! Enfin, c'est qu'un scénario là, hein, parce que je ne suis pas allé voir, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Et comprenez que s'il fallait l'afficher, est-ce que vous seriez fier aujourd'hui en disant moi, j'aimerais bien que tout le monde voit que j'aime l'Église? Ou alors vous direz oups, j'aimerais me cacher quelque part et qu'on ne voit pas trop le montant que j'ai pu donner. Bon, on ne va pas en arriver là, mais pour dire qu'à une époque, ça se pratiquait ainsi. Mais notez bien que Jésus, c'est Marc chapitre 12, verset 41, que Jésus, lui, il est dans le temple. Et Jésus s'assoit où? En face du tronc. Quand même, Jésus, il y a d'autres endroits pour s'asseoir, là. Tu aurais pu te mettre à côté de l'autel des parfums, enfin, à côté de sur l'esplanade du temple, l'autel des sacrifices. Ou... Non, Jésus se met à l'endroit où il y a le trésor, là où il y a de l'argent. Bon, vous allez dire, il y a peut-être plus d'ombre ici. Non, Jésus est là volontairement. Il est dit, il s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait. Jésus s'est mis là pour regarder. Mais regardez quoi? Regardez comment la foule mettait de l'argent. Jésus volontairement s'assoit vis-à-vis du tronc et il observe. Et il regarde pour voir comment la foule met de l'argent. Et notez bien que Marc nous dit bien que Jésus s'assoit pour regarder comment et non pas combien. Ça fait une différence ou pas? Jésus n'est pas assis pour dire « je veux voir combien ». Il dit « je veux voir comment ». Des hommes riches passaient et donnaient beaucoup d'argent. Et les disciples étaient épatés en disant « quand même, là, ça fait des belles sommes ». Et Jésus dit, ils donnent de leur superflu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont tellement d'argent que ça déborde de leur poche. Alors, ils donnent de l'argent, ils disent, ah, ils ont donné beaucoup. Ils n'ont fait aucun effort pour donner. Vous savez, c'est comme si quelqu'un vous redonne ce qu'il a en trop chez lui. Il dit, ah, j'ai un cadeau pour toi. Écoute, j'ai deux micro-ondes, j'en ai un qui ne sert pas, alors je pensais que je pouvais t'en donner un. Ah, c'est gentil de penser à moi. Ben oui, c'est ma belle-mère qui m'avait donné ça, je te le donne. Ah, merci, c'est gentil. Alors, on dit que ça, c'est un geste. Ou alors que quelqu'un dit, écoute, ça fait 6 mois que j'ai économisé pour t'offrir un cadeau à ta fête. Je voulais vraiment t'offrir quelque chose qui te plaise. Voilà, je t'offre ce micro-ondes. Ah, ben merci, ça me touche vraiment. Quand quelqu'un nous offre de son superflu, quelque chose qu'il avait en trop, vous savez, ces cadeaux qu'ils ont, ils ne savent pas quoi en faire. Mais bon, c'est gentil. Mais quand quelqu'un donne quelque chose qui lui a coûté, il a fait un effort pour donner, ça a une autre valeur. Et comment ça marche avec Dieu? Quand on donne à Dieu ce qui ne nous coûte rien, je veux dire, quel amour on manifeste pour Dieu. Quand on lui donne de ce qui nous prend, de ce qui nous coûte, en disant, Seigneur, c'est vraiment parce que je t'aime, que je veux faire un effort. Vous savez, il faut apprendre à faire des efforts et à donner à Dieu de ce qui nous coûte. Donner, il est question à un moment dans l'Ancien Testament de donner des... Il y avait toutes sortes d'offrandes, il y avait des sacrifices, il y avait des agneaux, il y avait des qui étaient immolés. Et puis certains disaient, ben, on va donner ceux qui sont chétifs, on va donner ceux qui sont malades, on va donner à Dieu là ce dont on n'a pas besoin. Et puis il y a ceux qui disent, on va donner à Dieu ce qu'on a de meilleur. Vous comprenez que ça fait une différence. Eh bien, de la même manière aujourd'hui, si Jésus était assis dans le temple pour regarder comment la foule y mettait de l'argent, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui encore, Dieu regarde à savoir comment. Non pas combien, mais comment. Nous sommes fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. Et s'il y a de la joie dans notre cœur, si nous offrons avec joie, si nous offrons avec amour, avec libéralité. Comprenez qu'il y a une question de réciprocité. Abraham est béni parce qu'il s'est donné à Dieu. De la même manière, il y a une bénédiction dans la dîme. Juste vous rappeler, par exemple, Notre Père que bien des gens récitent par cœur, où il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Seigneur, pardonne-nous, parce que nous aussi nous pardonnons. Et quand on vient vers Dieu et qu'on dit « Seigneur, donne-moi », Dieu aimerait qu'on puisse dire « Seigneur, donne-moi, comme moi je donne aussi à ceux qui ont besoin, comme moi je donne aussi pour ton œuvre. » Quelque part, c'est comme si on s'approchait de Dieu en disant « Seigneur, je veux être béni de toi. J'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être touché, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin... » Et on est là vers Dieu avec toutes sortes de revendications en disant « Seigneur, viens me bénir. » Et Dieu, quelque part, aimerait nous répondre en disant « Qu'en est-il de ta fidélité vis-à-vis des dîmes et des offrandes ?» Comprenez l'histoire de la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18, vous pourrez la relire tranquillement, où c'était un homme riche et il y avait un serviteur qui avait une dette énorme. Il devait une grosse somme d'argent. Et alors, il va supplier le roi en disant « Pardonne-moi, remets-moi mon argent, je ne peux pas te rembourser, je n'ai pas l'argent. » Le roi va avoir pitié, miséricorde, et dire « Ta dette est effacée. » Et ça, c'est l'image de Dieu qui nous pardonne nos offenses et qui remet notre dette. Et nous, lui, devons plus rien parce que Jésus a tout payé à la croix pour nous. Mais quand ce serviteur va rencontrer un autre de ses collègues qui lui doit une petite somme d'argent, qui va lui dire « Hé, toi, tu me dois de l'argent, paye-moi, ou sinon je t'emmène chez le juge, chez les huissiers, et qu'il te presse jusqu'à ce que j'obtienne ce que tu me dois. » Regardez, mais il n'a rien compris. Le roi lui a remis une forte somme et lui n'est pas capable de pardonner ou de remettre la dette d'un petit montant. Et quand le roi l'a appris, il s'est fâché de cette situation-là. De la même manière, quand Dieu nous donne énormément, il attend de nous aussi. Soyons capables de donner et d'être fidèles dans nos offrandes. Il y a une question de réciprocité. Regardez dans Luc 6, 38. Il est dit « Donnez ». Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui débordera.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.